date à l'année de Christ, mais effectivement, nous sommes aujourd'hui à cet anniversaire, et je crois qu'il y a tout à l'heure à la synagogue une cérémonie du souvenir, à 22h30, je crois, on m'a dit. Donc voilà, je crois que effectivement, il est important de se rappeler de cet événement épouvantable. Et malheureusement, l'antisémitisme n'a pas disparu, malgré ce que l'on a pu vivre en Europe, notamment entre 1933 et 1945. Et l'antisémitisme apparaît, je dirais, comme un virus. Et j'utilise évidemment une métaphore liée à l'actualité que nous avons connue ces dernières années, et que nous continuons à connaître d'ailleurs, un virus, mais ce virus-là infecte le monde depuis toujours. Il ne cesse de se renouveler, de muter, de s'adapter constamment au temps et aux circonstances, en utilisant toujours de nouveaux moyens de diffusion. Un virus aux multiples variants, pour utiliser donc une expression actuelle, installé dans la durée, sans rupture de temps, depuis plus de 2000 ans. On peut relever aussi sa diffusion géographique, quasiment planétaire, au point que l'on trouve des publications antisémites dans des territoires où la population juive est faible, voire inexistante. Nous nous inquiétons aujourd'hui de l'affichage sans honte de l'antisémitisme, comme par exemple lors des manifestations de l'été 2021, la crise sanitaire lui donnant de nouvelles occasions d'affirmation. Or, en 1979 déjà, l'AJCF s'inquiétait de la, je cite, de la résurgence de l'antisémitisme dénoncée par sa présidente nationale d'alors, Claire Huchet-Bishop. Celle-ci faisait une constatation que l'on peut reproduire aujourd'hui, l'antisémitisme change d'aspect selon la conjoncture. Mais je me demande si depuis 1979, la situation ne s'est pas aggravée. Depuis lors, en effet, les juifs sont victimes d'actes d'intimidation, d'injures. Les statistiques montrent une augmentation constante des agressions contre les personnes et les biens. Et surtout, on est passé à un écran supplémentaire avec le meurtre. La France est aujourd'hui le seul pays d'Europe où l'on tue des juifs pour la seule raison qu'ils sont juifs. Cela a commencé le 20 novembre 2003 avec Sébastien Selam à Paris, comme plus tard pour Sarah Halimi, assassinée le 4 avril 2017. L'assassin a pu échapper à la condamnation par la justice en utilisant l'argument de la folie. Puis, en janvier 2006, Ilan Halimi, enlevé, séquestré, torturé, assassiné dans des conditions épouvantables. Le 19 mars 2012, pour la première fois depuis 1944, des enfants juifs, Gabriel, Arié, Sandler et Myriam Monsonego, sont assassinés dans leur école avec le père des deux premiers, Jonathan Sandler, à Toulouse. Le 9 janvier 2015, c'est le massacre de l'hypercacher à la porte de Vincennes à Paris, puis les assassinats de Sarah Halimi en 2017 et de Mireille Knoll en 2018. Ces meurtres, et surtout ceux des enfants, Gabriel, Arié et Myriam, qui rappellent ceux des 44 enfants d'Izieux et du 1,5 million d'enfants disparus dans l'enfer des camps d'extermination nazis, montrent que la Shoah n'est pas seulement un fait qui appartient à un passé révolu et qui s'éloigne de nous à mesure que le temps passe. La Shoah, c'est-à-dire la volonté de faire disparaître les Juifs, appartient en France au présent. Et peut-être au futur, tant notre pays est traversé par des haines. L'antisémitisme devient de plus en plus prégnant. Les Français juifs sont angoissés par cette situation et beaucoup choisissent de partir en Israël. Ils se sentent trop souvent isolés dans la douleur et dans la peur. L'antisémitisme est actif, il circule et il tue. Car l'antisémitisme est avant tout une passion haineuse portée par des non-juifs à l'égard des juifs. Alors, j'ai identifié une quinzaine de variants, classés en fonction de l'idéologie qui les sous-tend, de leur mise en œuvre, de l'information et de leur diffusion. Je vais les énumérer rapidement en sachant qu'ils se recoupent les uns avec les autres. De plus, en fait, chacun d'entre eux mériterait une analyse approfondie, ce que le temps aujourd'hui, voilà, il faudrait que je parle pendant plusieurs heures, ne me permet pas. Mais chacun, j'insiste sur ce point, il faut les mettre en contact les uns par rapport aux autres pour en mesurer l'ampleur. Alors d'abord, les variants liés à l'idéologie. Là, je relève quatre variants de type idéologique. Le premier est l'anti-judaïsme. C'est le plus classique, je dirais, le plus ancien, né de la rupture initiale entre les premiers chrétiens et les juifs fidèles à la Torah, accentué par les pères de l'Église au cours des premiers siècles. Il est fondé sur un enseignement hostile et méprisant du judaïsme, sur la base de l'accusation de déicide, les juifs définis comme collectivement comme peuple déicide qui ont tué Dieu à travers Jésus-Christ, et d'autre part, la nouvelle alliance qui remplace l'ancienne alliance. Donc c'est d'abord le refus de reconnaître le judaïsme dans sa valeur propre. Les statues représentant l'église et la synagogue dans les cathédrales, sur les cathédrales, sur les murs des cathédrales, qui sont, vous le savez, de véritables livres de pierre servant à enseigner au peuple chrétien. On représente généralement, comme à Strasbourg par exemple, l'église triomphante, couronnée, portant la croix et un calice, et qui regarde en face d'elle la synagogue d'un air triomphant. Et la synagogue se détourne, les yeux bandés, symbole de son refus de reconnaître le Christ comme le Messie. Nous avons ce type de représentation dans de nombreuses cathédrales à travers l'Europe, et à Notre-Dame de Paris, les yeux de la synagogue sont bandés par un serpent, symbole évidemment particulièrement injurieux. Nous avons aussi le thème de la dispersion. Le peuple juif est maudit. C'est le thème du juif errant, qui naît sans doute en Orient et qui apparaît en Occident au XIIIe siècle. C'est l'enseignement du mépris dénoncé par Jules Isaac. Donc, on refuse de reconnaître au judaïsme une valeur. On refuse de le connaître, pas seulement de le reconnaître, mais tout simplement de le connaître. C'est Saint-Louis qui fait brûler le Talmud, des charrettes entières de manuscrits juifs brûlés à Paris, par exemple, entre les années 1240. Mais aussi la méconnaissance et le mépris, généralement pour l'Ancien Testament, seuls les psaumes ont pu être conservés dans la culture chrétienne et devenir une prière commune, si on peut dire, mais pas vécue ensemble, entre, pour les chrétiens et les juifs. C'est le refus même du vivre ensemble, avec l'organisation des ghettos, la concentration des juifs dans certaines régions, comme en Russie, dans l'Empire russe, les interdictions professionnelles, les expulsions, expulsions de France en 1306 et surtout en 1394, d'Espagne en 1492, les conversions forcées au Portugal en 1497, les spoliations répétées des biens, les impôts spéciaux imposés aux Juifs. En Alsace, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Un péage spécial avait été institué pour les Juifs qui voulaient entrer dans la ville de Strasbourg. La rouaine imposée par le Concile du Latran en 1215 et qui annonce l'étoile jaune. Au XVIe-XVIIe siècle, se répand l'idéologie de la pureté du sang, prémisse des idéologies raciales du XIXe siècle, et qui annonce le refus de reconnaître même les Juifs, même convertis. C'est le cas notamment en Espagne, avec toutes les méfiances qu'il pouvait y avoir à l'encontre des Juifs convertis, soupçonnés de ne pas être réellement convertis et de continuer à pratiquer leur religion en secret. Mais c'est le sang juif qui coule en eux et qui explique cela. Il y a toute une théorie sur la pureté du sang. Ce triple refus, je dirais, refus de la reconnaissance, refus de la connaissance, refus du vivre ensemble, a nourri au cours des siècles un anti-judaïsme religieux qui a débouché au XIXe siècle sur un autre variant, l'antisémitisme racial et social. Mais il faut bien avoir conscience qu'entre les deux, entre l'antisémitisme, entre l'antijudaïsme de type religieux et l'antisémitisme de type racial et social, vous l'avez compris, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. C'est-à-dire qu'on passe très facilement de l'un à l'autre, et l'antijudaïsme a bel et bien nourri l'antisémitisme contemporain. Alors, je passe à ce deuxième variant idéologique, c'est l'antisémitisme racial et social, qui est lié à la fois à la libéralisation des sociétés issues de la Révolution française, à l'émancipation des Juifs qui deviennent des citoyens, à peu près dans la plupart des pays d'Europe, selon des chronologies différentes, mais au cours du taux de la première moitié du XIXe siècle, pratiquement tous les Juifs européens, sauf en Russie, deviennent des citoyens. Et c'est lié aussi au nationalisme qui exige l'unité de la nation et qui définissent alors les ennemis de l'intérieur qui affaiblissent et divisent la nation. Et il y a là un lien très fort entre antisémitisme et nationalisme. C'est ce qui explique fondamentalement l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est finalement une banale histoire d'espionnage, allemand à l'encontre de l'armée française, bon, dans le contexte de la préparation finalement de la Première Guerre mondiale. Eh bien, le coupable était identifié comme membre de l'état-major, mais il y avait dans l'état-major un capitaine juif. Donc c'est lui. Forcément, ça ne pouvait être que lui le coupable. Le juif qui trahit, qui casse l'unité de la nation. Voilà. Et donc, nous avons ici un lien très fort avec le nationalisme. Et puis, l'émergence des idéologies racistes au XIXe siècle, avec toute une série d'ouvrages qui se multiplient au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, établissant des hiérarchies des races et définissant une race juive qui, évidemment, est conçue et présentée comme une race inférieure, la pire des races. Et le mot antisémitisme est forgé en Allemagne en 1879 avec la fondation d'une ligue, une ligue qui s'appelle la Ligue antisémite, par un personnage qui s'appelle Wilhelm Marr. Et à cela, tous les ingrédients sont prêts pour développer aussi une haine sociale à l'encontre des Juifs, accusés de vouloir dominer notamment l'économie, notamment du fait des activités bancaires de certains d'entre eux, et donc une haine sociale qui se développe à ce moment-là. Donc vous avez tous les ingrédients, nationalisme, idéologie raciale, haine sociale, qui se développent dans cette deuxième moitié du XIXe siècle. Un autre variant idéologique est celui de l'antisionisme, ou même, je préfère, à la suite de Richard Pasquier, vous savez, l'ancien président du CRIF, utiliser le mot israélophobie, qui ne date pas de 1948, de la fondation de l'État d'Israël. La haine d'Israël a commencé bien avant la fondation de l'État d'Israël, quand on a commencé à parler de l'idée d'un foyer juif en Palestine. Et en témoigne, par exemple, l'alliance du grand mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, avec Hitler. Celui-ci s'installe à Berlin en 1941 et encourage l'engagement de musulmans dans la Waffen-SS. Nous avons aussi, dans la même période chronologique, le poids du mouvement des frères musulmans qui est fondé en Égypte en 1928 et qui colporte une haine, une hostilité fondamentale, oui, une haine des juifs et notamment des juifs qui sont présents en Palestine. Et haine qui est colportée jusqu'à aujourd'hui, reprise jusqu'à aujourd'hui par le Hamas, le mouvement de résistance islamique, comme il se présente, et qui prône la disparition, non seulement de l'État d'Israël en tant qu'État, mais tout simplement des juifs. Mais dès 1948, le conflit israélo-palestinien est identifié à un conflit entre l'islam et le judaïsme, et les juifs sont expulsés des pays arabes successivement, de 1948, 1956, 1967, en plusieurs étapes, selon les pays, expulsés sans rien. C'est-à-dire, les juifs ne pouvaient partir qu'en étant encore en vie, mais en emportant absolument rien, si ce n'est une petite valise et quelques vêtements. Je voudrais signaler, par exemple, que M. Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne, a fait une thèse soutenue à Moscou en 1982 à l'université Patrice Lumumba sur, je cite le titre, la connexion entre les nazis et les dirigeants sionistes entre 1933 et 1945. C'est la thèse universitaire de ce monsieur. Il faudrait évoquer aussi tout ce qui tourne autour du boycott d'Israël, le BDS, le mouvement BDS, Boycott Divestment Sanctions, pour lutter non seulement contre les produits de l'agriculture et de l'industrie israélienne, mais aussi des universités, de la culture, des épreuves sportives, et je pourrais donner de multiples exemples. N'oublions pas l'assassinat des champions israéliens aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. On peut donc parler ici d'une israélisation de l'antisémitisme. Je reprends la formule d'un politologue plutôt israélien qui s'appelle M. Jérusalemi et qui parle d'une israélisation de l'antisémitisme. Et il y a aujourd'hui une obsession israélophobe, une véritable obsession. Nous l'avons vu avec l'arrivée de nouveaux députés à l'Assemblée nationale en juin dernier. Je pense notamment aux députés qui sont ralliés, qui sont réunis dans le groupe de la NUPES. On aurait pu imaginer que ces personnes de gauche ou d'extrême gauche, leur priorité serait les questions sociales. Eh bien non. Eh bien non. À peine élus, ils ont préparé un texte qui sera soumis au vote de l'Assemblée nationale ce mois-ci pour dénoncer l'État d'Israël comme État d'apartheid, ce qui, à mon avis, est une injure pour nos Africains qui ont vécu l'apartheid en Afrique du Sud et qui savent, eux, ce qu'est l'apartheid, alors que Israël nous en a donné une preuve récente comme modèle de démocratie, avec la participation au vote de gens qui ne sont pas juifs. Et voilà, donc c'était la priorité des priorités de ce groupe politique à l'Assemblée nationale. Je crois que ça traduit bien une espèce d'obsession anti-israélienne. Un quatrième variant idéologique, je dirais, c'est le négationnisme. Le négationnisme, c'est de la théorie pseudo-scientifique visant à nier l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination nazis, et à minimiser le nombre de victimes. Voilà. Le négationnisme travaille sur ces deux fronts. Les plus énervés disent que les chambres à gaz n'ont pas existé ou n'ont existé que pour tuer des poux. Bon, vous voyez le jeu de mots que ces gens-là peuvent avoir. Et puis, ou alors d'autres disent, oui, mais oui, certes, on a tué des juifs, mais pas tant que ça. Et le 6 millions de juifs est évidemment un chiffre inventé pour eux. Alors nous avons un certain nombre d'individus, Paul Racinier dès l'après-guerre, Robert Forisson, professeur de lettres à l'université de Lyon 2, et puis bien d'autres que je ne vais pas citer, avec une convergence entre les extrêmes gauches et l'extrême droite, puis reprise sur le plan international, notamment par l'Iran. Forisson est un héros en Iran. Le négationnisme, il s'agit clairement d'une opération antisémite. Alors en France, on a fait des lois. Une loi interdit le négationnisme, ce qui fait que les gens qui s'expriment dans ce sens tombent sous le coup de la loi et peuvent être condamnés à des peines de prison ou en tout cas des amendes assez lourdes. Ce n'est pas le cas, c'est le cas en Italie aussi, ce n'est pas le cas partout et notamment pas aux États-Unis, au nom de la liberté d'expression. Alors voilà donc déjà toute une série de variants de ce virus de l'antisémitisme. Maintenant, une série de variants, l'antisémitisme en action. Là, j'en ai relevé trois. Trois manières d'être actif dans l'antisémitisme. D'abord, la sémantique, les mots, le poids des mots, l'expression des préjugés, les injures, les gestes. Vous savez, la quenelle inventée par Dieudonné, ou inventée, ou en tout cas pratiquée par Dieudonné. Les préjugés, les stéréotypes, la richesse, les juifs sont riches, ils sont puissants, ils sont intelligents, ils sont retors, rusés. Intelligent me paraît être le défaut ou la qualité, je ne sais pas ce qu'il faut dire, sans doute la plus dangereuse. Parce qu'un juif intelligent, c'est un juif qui peut vous rouler, qui peut vous avoir, vous embobiner. Les juifs sont dangereux individuellement pour chacun d'entre nous, pour chacun, chaque citoyen non-juif, et collectivement, parce qu'ils sont collectivement puissants, et individuellement parce que, oui, ils sont intelligents. Je crois que de tous ces préjugés, c'est peut-être le plus retors, le plus dangereux. Il est donc prudent, voire nécessaire, de placer les juifs sous contrôle. Vous voyez le raisonnement. Il faut les contrôler. Il y a une question juive. C'est ce que disent un certain nombre d'États, ce qu'on disait dans un certain nombre d'États. Il faut les placer sous contrôle, éventuellement les persécuter, les empêcher d'accéder à certaines fonctions et métiers, et même de recevoir un enseignement. Il vaut mieux que les juifs ne soient pas instruits. Relisez les statuts des juifs de Vichy. Le statut de 1940 et celui aggravé en 1941 qui exclut les juifs de toute une série de métiers et même de l'enseignement comme professeur, mais aussi de l'enseignement comme étudiant ou élève. Nous avons une deuxième action antisémite, c'est la remise en cause des pratiques rituelles, avec les offensives contre l'abattage rituel, la Sheita, et par là, l'ensemble des lois alimentaires que constitue la cachoute. Mais là, je pense que les pouvoirs publics n'iront pas trop loin, parce que ce serait s'attaquer aussi aux musulmans sur les pratiques d'abattage rituel et les lois alimentaires. Mais il y a aussi les mesures contre la circoncision que certains veulent assimiler à une mutilation au même titre que l'excision. Dans certains pays d'Europe, aujourd'hui, comme la Suède, la circoncision est interdite. Troisième type d'action, peut-être la pire évidemment dans ses conséquences, c'est que l'antisémitisme conduit non seulement à la séparation, mais aussi aux persécutions, non seulement à la haine, aux injures, etc., mais aux persécutions violentes, c'est-à-dire aux meurtres individuels, aux meurtres collectifs. Ce sont les massacres, les pogroms, terme d'origine russe qui signifie ravager, détruire, appliqué aux communautés juives, mais le premier pogrom est daté quand même de 414 et qu'il a eu lieu à Alexandrie en Égypte. En Occident, au moment des croisades, et puis avec évidemment une explosion en Russie au 19e et au début du 20e siècle jusqu'en 1920. Les destructions répétées des synagogues, les humiliations. À Toulouse, pour Pâques, on avait la tradition d'administrer un soufflet à un juif de la ville dans la cathédrale Saint-Étienne. Les accusations de crimes rituels, d'empoisonnement, des accusations d'empoisonnement. Et puis, dès qu'il y avait une épidémie quelque part, immédiatement on accusait les juifs. Et après tout, face au Covid, eh bien, on a bien accusé aussi les juifs. Remise en cause. Alors, il se trouve qu'en France, le hasard a fait que la ministre de la Santé était juive. Monsieur Salomon, qu'on voyait tous les jours à la télévision pour nous annoncer que ça allait être pire le lendemain, il était juif. Il y avait un troisième personnage, je crois, qui intervenait souvent, je ne me souviens plus, qui était juif aussi. Donc, suffisamment pour dire, ben voilà, vous voyez, le complot juif. En plus, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, l'État d'Israël a été l'État qui a le mieux lutté contre le Covid. Pourquoi? Eh bien parce que le virus il a été inventé par des juifs. Donc l'État d'Israël avait tous les moyens de lutter contre le Covid. Et c'est le pays qui a été le plus efficace à travers le monde pour contrôler l'épidémie, avec des mesures d'ailleurs très sévères. Et puis, alors, je vous invite à lire l'admirable livre de Léon Poliakov, La causalité diabolique, qui montre bien, essai sur l'origine des persécutions, qui montre bien ses origines diverses des persécutions. Et toujours trouver un juif responsable de ce qui se passe. Avec, en plus, l'émergence au XXe siècle d'une volonté politique d'éradiquer le judaïsme en Europe, c'est-à-dire la mise en œuvre du génocide, sur le modèle de ce qu'avaient fait les Turcs à l'encontre des chrétiens arméniens en 1915. Et nous savons bien que ce qui s'est passé dans l'Empire ottoman en 1915 et jusqu'aux années 20 a servi de modèle à Hitler. Avec cette fois une organisation structurée, une organisation quasiment industrielle de la mise à mort des Juifs, structurée, pensée et structurée, organisée par des fonctionnaires. On peut ajouter à cela les attaques contre des lieux de culte, des attentats contre des synagogues, mais aussi même les attaques contre les morts. Tuer ne suffit pas. On s'attaque aux morts. Violation de tombes, destruction de tombes, de stèles. La stèle, l'arbre qui a été planté, là on a retrouvé Ilan Halimi agonisant, a été déjà découpé deux fois au moins et replanté. Donc on ne se contente pas de torturer, d'assassiner, on veut encore éliminer tout le souvenir de ce drame qu'a vécu ce jeune garçon. Une stèle pour Simone Veil en Bretagne a été taguée, a été attaquée. Donc, tuer ne suffit pas. On s'attaque aussi aux morts. Troisième type de variant, m'excuse d'aller vite, mais ça donne un panorama, les variants à travers l'information. Ou d'abord, la fabrication du faux. On invente. On en a eu un exemple avec le négationnisme. On raconte n'importe quoi. Mais c'est surtout le thème du complot juif. Les juifs associés aux francs-maçons au XIXe siècle et aux bolcheviques au XXe. Et en particulier, le protocole des sages de Sion. Alors le protocole des sages de Sion est un texte, est un faux de la police tsariste, établi en 1903, dans un contexte d'antisémitisme d'État, en quelque sorte, puisque ce sont des officiers de la police tsariste qui l'ont fait. 1903, c'est l'année du grand pogrom de Kishinev en Moldavie. Et ce faux, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit que les Juifs ont un plan pour dominer le monde. Il s'est inventé évidemment de toutes pièces. Il n'empêche que ce faux a eu un succès absolument mondial, traduit dans toutes les langues du monde, qu'il circule très activement aux États-Unis, qui actuellement est un pays qui est actuellement saisi par une vague d'antisémitisme plutôt jusqu'alors inédite. Le protocole des sages de Sion a nourri le nazisme et continue à entretenir un antisémitisme virulent, notamment dans le monde arabe. Sa première traduction en arabe est due à un chrétien copte en Égypte. Deuxième type de variant, la désinformation. Alors j'ai évoqué Israël, effectivement, j'y reviens un petit peu. Plus que tout autre État dans le monde, l'État d'Israël est toujours accusé des forfaits les plus sinistres et les Juifs du monde entier en sont évidemment les complices. Même si en Israël même il y a de grands débats politiques, si tous les Israéliens ne soutiennent pas le gouvernement qui est en place, et si tous les Juifs, notamment en France par exemple, les Juifs français ne suivent pas forcément les actualités israéliennes, il n'empêche qu'ils sont complices des forfaits commis par l'État d'Israël, et ce sont des forfaits nombreux et variés. Un chercheur israélien, M. Yemini, a publié en 2020 un ouvrage très intéressant intitulé « L'industrie du mensonge, les médias et le milieu universitaire et le conflit israélo-arabe ». Et il montre bien une industrie du mensonge qui mêle contre-vérité, haine, et cynisme que l'on est confronté lorsque, auquel on est confronté lorsqu'il s'agit du conflit du Moyen-Orient. L'une des accusations les plus choquantes est l'identification d'Israël avec le nazisme. On les trouve même dans des publications chrétiennes qui reprennent sans y réfléchir, ou peut-être en y réfléchissant, je n'en sais rien, la propagande du Hamas, mouvement reconnu sur le plan international comme terroriste, et qui prône dans sa charte la disparition pure et simple d'Israël. On avance par exemple l'idée d'une extermination des Palestiniens, alors que la population palestinienne se trouve dans une dynamique démographique. Donc, comment parler de disparition, d'extermination des Palestiniens, alors que la population palestinienne ne cesse d'augmenter, et que ceux qui vivent dans Israël s'y trouvent plutôt bien et participent à la vie du pays, économique et politique. On parle d'un génocide des Palestiniens, d'un État fondé sur l'apartheid, détournement des mots, relativisation des réalités du génocide des Juifs et de l'apartheid des Noirs, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, la banalisation de la Shoah. Vous avez vu les anti-vaccins qui se mettent sur la poitrine une étoile jaune. En 2016, l'UNESCO a publié un texte déniant la judéité de Jérusalem. Un texte voté d'ailleurs par notre ambassadeur auprès de l'UNESCO, qui nie le fait que Jérusalem est une identité juive. Alors, on peut toujours critiquer la politique israélienne par rapport à Jérusalem, etc. Mais quand même, dire que Jérusalem n'a pas d'identité juive, il fallait quand même y penser. Et encore récemment, l'ONU, cette fois, je crois que c'était à la fin de 2021, j'ai écrit un article de protestation dans La Croix à ce sujet. L'ONU a voté, avec le soutien de la France, un texte disant que on ne doit plus utiliser le terme juif pour désigner ce qu'en Europe on appelle le mot sion, mais uniquement le terme arabe. Donc nier la présence juive à Jérusalem. N'oublions pas les manuels scolaires qui ont été étudiés récemment par des historiens du Bnei Brit, qui ont montré un panorama très préoccupant. D'ailleurs, l'un des éditeurs, Magnard, a accepté de modifier la présentation qu'il faisait de l'État d'Israël et notamment de la guerre des six jours. Mais les autres manuels ont refusé, n'ont même pas répondu à la sollicitation du Bnei Brit. Troisième type de variant, bien le complotisme. Qui, vous souvenez cette pancarte, qui, point d'interrogation. En février 2019, un sondage indique que 44% des sympathisants du mouvement des Gilets jaunes adhéraient à la thèse d'un complot sioniste international mondial. 44%. Nous sommes à nouveau aujourd'hui au cœur des théories du complot, de la conspiration, de la domination du monde par les forces occultes. Il y a quelques jours, un père jésuite, le père Gaël Giraud, a fait une intervention à la télévision que vous pouvez voir sur YouTube, où il explique le lien fort entre le président de la République française, M. Macron, et David de Rothschild, pour dominer le monde, contrôler l'économie mondiale et empêcher des nationalisations au nom du libéralisme économique. Alors Gaël Giraud est un prêtre, donc jésuite, économiste, proche de M. Mélenchon et de la France insoumise, politiquement, sur le plan politique. Le problème, c'est qu'il reprend finalement, en le modernisant, le protocole des sages de Sion, la domination du monde, et finalement, un monsieur nourri du vieil anti-judaïsme aussi. J'ai à ce sujet envoyé une lettre de protestation au... chef des jésuites, non pas le général, le provincial, merci, au provincial des jésuites français pour protester. Je n'ai pas encore reçu de réponse, j'espère qu'il me répondra. Voilà. Donc, le bouc émissaire est le diable que le grand spécialiste de l'antisémitisme identifié, qui est Léon Poliakov, identifié dans la période historique, sont toujours de notre temps. Et même malgré les progrès de la science, de la connaissance, notamment de la connaissance historique et de l'éducation, ils paraissent plus foisonnants que jamais. La crise de notre société ne serait-elle pas avant tout une crise de l'intelligence et de la raison, à la recherche toujours renouvelée du bouc émissaire, comme le rappelle le philosophe René Girard, le bouc émissaire qui concentre sur lui les forces maléfiques et doit être mené au désert. Et le bouc emportera sur lui toute la faute en un lieu aride, nous dit le Lévitique. La rumeur, vous vous rappelez peut-être de la rumeur d'Orléans en 1989, des jeunes femmes enlevées dans des cabines d'essayage de magasins de vêtements tenu par des juifs. Il y a eu un livre là-dessus d'Edgar Morin, La rumeur d'Orléans, qui a été publié en 1969. Quatrième type de variant, les moyens de diffusion de l'antisémitisme. Par quels moyens on diffuse tout cela? Eh bien, là aussi, nous avons donc un certain nombre de moyens. J'en retiens quatre. D'abord, la littérature, bien sûr. La littérature, le 19e siècle, c'est l'entrée dans l'ère de la communication de masse. La presse populaire, les brochures, les revues, les livres, soutenus par le développement de la liberté d'expression, ce dont on ne peut que se réjouir, évidemment. Mais on voit se développer un antisémitisme de plume d'Édouard Drumont, avec la France juive en 1886, jusqu'à Roger Garaudy, les mythes fondateurs de la politique israélienne, déjà en 1999, en passant par Céline et les débats autour de la réédition de ces pamphlets antisémites. Alors on pourrait donner des quantités de livres, j'évoquais tout à l'heure les ouvrages sur la race, sur les Arthur de Gobineau, Alphonse Toussenel, socialiste, qui publie en 1845 « Les Juifs rois de l'époque ». Le titre, tout est dans le titre, « Les Juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité financière ». Nous avons Richard Wagner, qui dénonce « La judéité dans la musique », publié en 1850. Arthur de Gobineau, « Essai sur l'inégalité des races humaines », pour finir avec Alfred Rosenberg, le théoricien du nazisme, le mythe du XXe siècle. On a eu à un moment donné en France une maison d'édition nommée La Vieille Taupe, qui publiait Forisson, Racinier et tous les autres, mais qui a disparu en 1991. Deuxième type de support, les caricatures, liées à la presse évidemment. L'image est un moyen majeur de diffusion de la haine antisémite. On en a vu récemment encore à Avignon, un type qui avait posé, fait un grand panneau antisémite représentant Macron, toujours, manipulé comme une, par les juifs comme une marionnette. Bon. L'image, et notamment l'image caricatural qui fait rire, en même temps qui fait appel au rire, eh bien, accentue le dynamisme de la propagation, car elle offre une synthèse des stéréotypes, le nez crochu, le personnage avec un chapeau, etc., et aide à la mémorisation. Elles accompagnent l'antisémitisme de plume, souvent. En Iran, nous avons un concours international de caricatures sur l'Holocauste. Imaginez le bon goût de ce truc-là. Nous avons des pamphlets, le carnaval d'Alost, en Belgique, qui fait... donc j'aurais pu le mettre dans les spectacles, qui sera mon prochain point, avec des personnages au nez crochu et portant des lingots d'or. Bon, vous voyez, stéréotype toujours, le juif caricaturé, riche, etc. Bon. Alors, justement, cela me fait passer du cinéma au troisième type de support, le cinéma et les spectacles. Alors, les spectacles, les mystères du Moyen-Âge, par exemple, avec les scènes de la Passion. Mais nous avons quand même un point parfois positif, des évolutions positives, même si elles sont tardives. Ce sont les scènes de la Passion dans un village de Bavière qui s'appelle Oberammergau. Village de Bavière, avec une tradition qui remonte à 1633. 1633, tous les 10 ans, toute la population est mobilisée pour représenter la Passion. Alors, évidemment, avec une connotation anti-juive très marquée, qui a été utilisée par Goebbels dans la propagande nazie. Néanmoins, depuis les années 1980 et surtout à partir de 2000, grâce à un nouveau directeur artistique qui s'appelle Christian Stuckel, eh bien, toute connotation antisémite a été expurgée. Jésus y est désormais représenté clairement comme juif. Et ses disciples l'appellent Rabbi. Et pendant la représentation de la scène, il prononce une phrase en hébreu. Donc il y a quand même des évolutions. Je dirais qu'entre 1633 et l'an 2000, il s'est passé un certain temps quand même. Donc la prise de conscience est un peu lente, mais elle arrive, on ne peut que s'en réjouir. J'ai évoqué les carnavals. Le cinéma, alors le cinéma c'est un peu... Alors évidemment, nous connaissons tous le Juif Sus, le cinéma nazi, le Juif Sus qui était un film de propagande nazie. Mais Dieudonné, par exemple, a fait un film qui s'appelle, gentiment, L'Antisémite, en 2012, coproduit avec une société iranienne. Alors, il n'a pas été autorisé à sortir en salle, mais il est commercialisé sur Internet. Et les camps sont tournés en dérision. Il était très lié avec Fourisson, et là, avec lui, nous avons la banalisation de l'outrance et de la provocation. En 2002, en Égypte, la télévision égyptienne a sorti une série télévisée qui s'intitule Le cavalier sans monture et qui est une charge antisémite. Pascal Horry en parle dans son livre récent sur l'antisémitisme. Quatrième type de support, et sans doute le plus pernicieux et le plus dangereux, les réseaux sociaux. Bien sûr. Là, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Marc Nobel, La cyber-haine, où il décrit parfaitement les mécanismes et le cyber-antisémitisme, la haine online, les réseaux sociaux qui amplifient les phénomènes, avec surtout une confusion entre la rumeur, les fake news et la réalité historique. Tout est mélangé parfois, n'importe qui peut répandre n'importe quelle idée dans l'anonymat sans avoir à en rendre compte, ni à se justifier, ni à apporter la moindre preuve. et là, avec une diffusion rapide sur une très large échelle, une échelle mondialisée. Alors, après ce tableau, je voudrais passer à ma conclusion. L'imagination des malfaisants paraît sans limite. Nul n'a encore découvert le vaccin qui pourrait préserver le monde du virus de l'antisémitisme, ni même les médicaments qui pourraient au moins limiter la diffusion des métastases de ce cancer qui ravage la société. Alors que faire? Je dirais d'abord, évidemment, dénoncer, encore et toujours, ces ignominies. On peut avoir recours à la justice, la LICRA fait de ce point de vue un travail remarquable, parce que la LICRA a des moyens, notamment juridiques importants, le CRIF également, et d'autres organisations, ont les moyens d'intervenir auprès de la justice, de dénoncer, car l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. C'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, il avance masqué. Il avance à travers l'antisionisme ou à travers l'israélophobie. Il y a des lois contre l'éradicationnisme et contre la haine raciale, mais le problème, c'est effectivement ces gens qui avancent masqués. Deuxième action, rappeler toujours la vérité historique, notamment par rapport à la Shoah, par rapport aussi à l'État d'Israël, sans oublier, sans négliger le fait qu'on a tous le droit de critiquer le gouvernement israélien, mais la question israélienne me paraît tout à fait fondamentale. Mais rappeler la vérité historique, c'est difficile. Dominique Schnapper l'a dit à un colloque de l'AJCF en 1999. Dominique Schnapper est la fille de Raymond Aron, une grande sociologue aussi. Elle disait ceci: les représentations folles qui ont nourri l'antisémitisme se transmettent mieux d'une génération à l'autre que le combat intellectuel et moral pour la vérité. Et là, en une phrase, elle a bien montré combien le combat est inégal. Vous pouvez dire, raconter n'importe quoi, mais pour contrer, je pense, au négationnisme, mais pour montrer que les chambres à gaz, les camps d'extermination ont bel et bien existé, eh bien, il faut avancer un certain nombre d'arguments. Et c'est évidemment plus compliqué, plus difficile, dans un espace médiatique, par exemple, la télévision notamment, on ne vous laisse pas parler assez longtemps. Cette remarque est très juste et d'autant plus inquiétante que les derniers témoins de la Shoah sont en train de nous quitter. L'avenir de la transmission de la mémoire passe maintenant aux historiens et c'est une lourde responsabilité car il revient aux historiens d'apporter la connaissance historique, ce qui n'a évidemment pas le même poids, quelle que soit la valeur de l'historien ou sa compétence, ça n'a pas le même poids que la chaleur et l'émotion du témoignage. On l'a vu récemment au cours de la dernière campagne électorale présidentielle avec des gens qui ont voulu affirmé combien que le maréchal Pétain avait protégé des juifs. Bon, ça ne résiste évidemment pas une seconde à l'analyse historique, à la connaissance des textes, à tout ce que l'on peut savoir. Il n'empêche qu'une fois que c'est dit, tous les médias s'en emparent, officiellement pour critiquer, mais en même temps on répond à un message, et ensuite les historiens, comme le dit Dominique Schnapper, rament pour démontrer que c'est évidemment faux et archi-faux. Bien, on dispose par exemple du texte du statut des Juifs que j'ai évoqué tout à l'heure, annoté par le maréchal, et qui va dans un sens de l'aggravation des mesures prises contre les Juifs en France. Et puis, alors, troisième point que je voudrais dire, c'est quand même, on dispose peut-être non pas d'un vaccin ou d'un antidote, mais peut-être d'un moyen de contenir la haine antisémite. On trouve une réponse dans la solidarité, la fraternité, l'amitié des chrétiens et des non-juifs d'une manière générale avec les juifs. Et ici, pour l'amitié judéo-chrétienne, je voudrais insister sur l'engagement des chrétiens auprès des juifs. J'aime bien citer Henri Bergson, le grand philosophe juif. En 1933, il écrit à Emmanuel Mounier, philosophe catholique, le 10 avril 1933. Mounier vient de créer l'année précédente la revue Esprit. Et il veut consacrer un numéro au nazisme. Il demande à Bergson un article sur l'antisémitisme nazi. Et Bergson refuse. Ça peut paraître surprenant. Il refuse. Et il écrit à Mounier une lettre datée du 10 avril 1933. Il dit quelque chose de très important. « Si c'est simplement pour que je déclare réprouver l'antisémitisme allemand que vous me demandez de vous adresser une ligne, en fait l'autre demandait un article, enfin, d'une manière de s'exprimer, de vous adresser une ligne, c'est parfaitement inutile. Cette réprobation va de soi. Une telle déclaration d'intérêt n'a d'intérêt que si c'est un non-juif qui l'a fait. » Et ça, cela me paraît absolument fondamental. Et Bergson a mille fois raison. Qu'un juif dénonce l'antisémitisme, bon, pourquoi pas, mais ça n'a pas de poids. C'est normal, je dirais. C'est naturel. Mais qu'un non-juif, comme le dit Bergson, le fasse, c'est extrêmement important. Ne pas laisser les juifs seuls. Nous avons eu, le 15 septembre 1935, les lois de Nuremberg. Quelques mois plus tard, les Jeux Olympiques de Berlin, 1936. On n'a rien fait par rapport aux lois de Nuremberg. Et ce qui a permis au régime nazi d'organiser la grande exaltation de leur régime devant le monde entier lors des Jeux Olympiques de Berlin. Le rapprochement des dates est impressionnant. Autre rapprochement de dates. On a évoqué tout à l'heure la nuit de cristal, donc novembre 1938. Du 6 au 15 juillet 1938, se tient à Évian une conférence internationale. À Évian, donc pas loin d'ici. À la demande des États-Unis, du président Roosevelt, pour s'interroger sur l'accueil des Juifs devant, qui veulent quitter l'Allemagne et l'Autriche. Bon. À part l'Allemagne et l'Autriche et l'Union soviétique, pratiquement tous les pays du monde sont présents. Tous refusent l'idée, y compris les États-Unis à l'origine de cette conférence, y compris la France, l'idée d'ouvrir les frontières et d'accueillir des réfugiés juifs. Un pays se distingue, l'Australie, qui dit « Moi, je ne veux pas de juifs. Nous n'avons pas de problème d'antisémitisme. Si on laisse venir des juifs en Australie, on va avoir problème d'antisémitisme. » C'est dit par le représentant de l'Australie. Le seul pays qui accepte des juifs, c'est la République dominicaine. Et d'ailleurs, effectivement, il y a pas mal de juifs, surtout autrichiens, qui ont pu partir et se réfugier en République dominicaine. Pour quelle raison la République dominicaine? Le pays est dirigé par un dictateur, Trujillo. Son problème, ce sont les Noirs. Il dit, j'ai une population noire, trop importante. Les Juifs vont me permettre de blanchir ma population. C'est impressionnant. Bon, et évidemment, à la suite de cette conférence, la nuit de cristal. Alors même que nous sommes dans une période où les nazis ne pensent pas encore à tuer les juifs, ils veulent s'en débarrasser, ils sont prêts à les faire partir. Et un certain nombre de juifs sont autorisés à embarquer en 1939, c'est début 39, fin 38, je me souviens plus, excusez-moi, sur un paquebot à Hambourg, le Saint-Louis. On les envoie à Cuba. À Cuba, on leur refuse de descendre, de débarquer. Le bateau part aux États-Unis. Les États-Unis refusent. Il revient en Europe. Une partie des Juifs arrive à débarquer en Angleterre, une autre partie en France, qui seront pris ensuite au moment de l'invasion allemande, et puis une troisième partie repart à Hambourg. Certains se sont suicidés d'ailleurs en se jetant dans la mer. Alors c'est pourquoi la fondation de l'amitié judéo-chrétienne en 1948 me paraît si importante. Elle a été fondée par un juif, mais avec des chrétiens, et avec l'idée que son président d'ailleurs ne doit pas être juif au niveau national. L'intuition, on est dans l'intuition de Bergson, le président national de l'amitié judéo-chrétienne, ne doit pas être juif. C'est Jules Isaac qui l'a dit. Parce que justement, s'il était juif, voilà, je dis au niveau national, pas au niveau local. Et l'intuition de Jules Isaac a été créatrice. Il fallait examiner les causes profondes de ce qui s'était passé en Europe en terre chrétienne entre 1933 et 1945. Et il a montré que le nazisme avait plongé ses racines au fond de l'histoire d'un antique anti-judaïsme qui, à partir du XIXe siècle, a inspiré et nourri l'antisémitisme sociologique et racial. Alors, je ne peux pas revenir ici sur l'œuvre colossale de Jules Isaac qui, par une démarche d'historien, d'analyse, de confrontation des textes, a montré l'inanité de l'enseignement chrétien sur le judaïsme et l'injustice, au-delà de sa dangerosité, du mépris induit, distillé dans les consciences par un tel enseignement. Ça a été cette volonté d'un historien, avec d'autres intellectuels juifs et chrétiens, de tourner le dos à près de deux millénaires de méfiance, de conflits, voire de haine, pour construire un avenir autre fondé sur l'amitié. Isaac a voulu revenir au texte fondateur qu'il a décortiqué, analysé, confronté les uns aux autres. Et sa démarche est du reste une formidable leçon d'histoire, leçon de méthode, pour démontrer que cet enseignement transmis d'abord par les pères de l'Église, puis répété des siècles durant, devait être révisé pour être fidèle au Christ et effacer les interprétations erronées de la Bible qui entretenait la haine des Juifs. Il l'a fait sans aucune agressivité, même si en 1948, pas mal de chrétiens ont réagi assez brutalement à son grand livre « Jésus et Israël », mais avec la sûreté de celui qui avance sa démonstration avec rigueur. Il a réussi à convaincre jusqu'au pape, notamment Jean XXIII. Il a su convoquer l'histoire pour renverser l'erreur et poser les bases de l'amitié et de l'estime. Il a mené un combat de vérité. Et puis, je dirais, pour terminer, cette fois complète, absolument, on peut dire d'ailleurs, oui, excusez-moi. Dernier point de ma conclusion, c'est finalement que pour les chrétiens, l'antisémitisme est impossible. C'est l'impossible antisémitisme, c'est le titre d'un texte de Jacques Maritain en 1938. Et si récemment, le pape François a fait sien les propos de l'un de ses prédécesseurs, Pie XI, en 1927, avec plus de force encore, en proclamant « un chrétien ne peut pas être antisémite », il n'est pas sûr qu'il aurait pu s'exprimer ainsi si Jules Isaac n'avait pas ouvert la voie à ce que donc Maritain appelait l'impossible antisémitisme et qui a ouvert la voie au s'il n'y avait pas eu Nostra Aetate et s'il n'y avait pas eu son prédécesseur Jean-Paul II qui a affirmé que la nouvelle alliance ne remplace pas l'ancienne alliance, que les deux, l'ancienne alliance est toujours valable. Alors, nous sommes confrontés à une banalisation de l'antisémitisme. J'ai évoqué la motion déposée par certains députés. J'ai pu évoquer la déclaration du père jésuite Gaël Giraud. La réunion du jury du prix Goncourt qui s'est tenue ces derniers jours à Beyrouth à la suite, malgré des déclarations antisémites du ministre local de la Culture, seuls 4 membres ont refusé de s'y rendre. Je crois que c'est plus que jamais, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs au provincial des jésuites, il faut mettre en valeur, puisqu'on parle de jésuites ici, en 1941, des jésuites ont fait paraître le premier numéro des cahiers du témoignage chrétien, le père Chaillé notamment, intitulé « France, prends garde de perdre ton âme ». On en est revenu là. Je pense qu'il est temps de mobiliser les armes, ce que Chaillé appelait lui-même les armes de l'esprit, pour mobiliser nos compatriotes au nom de l'amitié avec les Juifs contre l'antisémitisme. Je vous remercie de votre attention.
Passons à la deuxième partie.
Alors cette deuxième partie, je crois que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez. C'est maintenant le moment des questions. Si vous voulez maintenant poser des questions à notre président de l'amitié judéo-chrétienne nationale, Jean-Dominique Durand. Voilà, alors je vous laisse un peu réfléchir encore à...
Messieurs, dames, bonsoir. Je me présente simplement. Je suis athée, après avoir une formation catholique. Et je suis là par sympathie. Deux choses. Votre plan extrêmement clair et bien structuré est très agréable. Deuxièmement, j'ai été très heureux d'entendre que vous preniez les mots qu'il faut prononcer, qui se disent parfois en cachette, qui se disent en se cachant. Vous les avez prononcés, ces mots. Et comme ça m'a beaucoup, ça m'a enthousiasmé, pose une seule question, est-ce que vous pouvez passer une fois par mois sur les grandes chaînes de télévision?
Ça ne dépend pas de moi. Je voudrais réagir au fait que vous êtes présenté comme athée. C'est très important. Parce qu'effectivement, cela me permet de rappeler que l'amitié judéo-chrétienne n'est pas une structure religieuse, mais c'est une association laïque qui ne dépend d'aucune religion. Nous avons parmi nous des catholiques qui sont pratiquants, qui vont à la messe le dimanche, des juifs qui fréquentent la synagogue, des protestants qui vont au temple, et nous avons aussi des personnes qui soit sont de culture juive, chrétienne, catholiques, protestantes, orthodoxes aussi, j'aurais pu évoquer les orthodoxes, mais qui ne sont pas ou plus croyants, Et même dans notre comité directeur, nous avons plusieurs personnes qui me disent, bon, nous, on est là parce que l'amitié judéo-chrétienne nous paraît importante. Voilà. Donc, vous pouvez être parfaitement à l'aise dans cette amitié parce que notre structure est véritablement très ouverte et absolument pas confessionnelle. Ce qu'il convient de répéter, je crois, au pouvoir public lorsqu'il craigne des atteintes à la laïcité, à la sacro-sainte laïcité. Non, au contraire, l'amitié judéo-chrétienne est une structure laïque qui œuvre pour l'unité de la nation et pour la réconciliation entre les Français. D'ailleurs, cette année, nous avons reçu au niveau national une subvention pour organiser la journée nationale de lutte contre l'antisémitisme qui est fixée au 19 mars, anniversaire du massacre de Toulouse. Eh bien, nous avons reçu une subvention de l'État, de la DILCRA, la délégation interministérielle pour la lutte contre l'antisémitisme et le racisme, racisme et antisémitisme et les discriminations. Et donc c'est bien le fait qu'au plan national, la JCF est bien reconnue comme une structure qui est une structure laïque et non confessionnelle. Donc merci de m'avoir donné l'occasion de le préciser.
Merci.
Et merci pour vos propos.
Merci encore de votre exposé très clair et très instructif. Je voudrais savoir comment nous pourrions connaître la réponse du jésuite à votre lettre.
Eh bien, lorsqu'elle viendra, je pourrai la transmettre à M. Romeu et puis il vous en fera part.
Ça sera intéressant de savoir comment.
Je pense.
Merci.
Excusez-moi, je voulais aller un peu plus loin que monsieur, je ne sais pas,
Willy.
Ce qui m'a surpris, c'est que vous avez effectivement parlé de la cyberattaque, enfin pas attaque, mais et ce sont les réseaux sociaux sont beaucoup plus suivis actuellement par les jeunes que la télévision même. Et pourquoi vous n'apparaîtrez pas là-dedans, justement, dans la cyberdéfense?
Malheureusement, je vous dirais que l'amitié judéo-chrétienne, c'est une association, simplement. Hein. Et nous ne sommes pas très solides de ce point de vue-là. Hein. Nous avons, j'ai dans mon équipe des personnes qui suivent les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, sur enfin, les différents supports. Hein. Il y a Twitter, il y a... Excusez-moi, mais j'avoue que je suis un peu perdu par cela. Bon, j'appartiens à une génération. Mais je n'ai pas avec moi des gens plus jeunes, notamment un jeune homme, un jeune garçon, un homme jeune, Gustave Daudard, c'est son nom, qui est un protestant et qui, lui, il a 29 ou 30 ans, donc il nage là-dedans comme un poisson. Donc c'est lui qui met sur les réseaux ce que nous faisons, ce que... Enfin voilà, c'est mon porte-parole sur les réseaux sociaux. À travers ce garçon qui est un Parisien, qui habite à Paris, et qui est un protestant, lui pratiquant d'ailleurs. Et voilà, donc je m'appuie beaucoup sur lui.
Je veux aussi vous dire bravo pour votre présentation qui était extrêmement bien structurée et très claire. Je voudrais juste faire une petite remarque par rapport à la rumeur d'Orléans, parce que moi j'avais 15 ans quand c'est arrivé, et elle est arrivée en 1969 et non pas en 1989.
Ah, j'ai dit 89, excusez-moi, mais c'était écrit 69.
J'étais à Orléans au moment où c'est arrivé, et je passais tous les, je connaissais très bien le... propriétaire de boutique de vêtements, donc je sais bien que c'est arrivé à ce moment-là. Quoi.
Et alors, dans cette histoire...
Il y a eu la même rue Filatrie au même moment à Annecy.
Pardon, je n'ai pas compris.
Il y a exactement le même phénomène, rue Filatrie, dans le troisième magasin, quand on passe la voûte, il y avait marqué ou pas, jadis, avec la même rumeur à Annecy à la même époque.
Ah bon? Ah oui.
C'était mondial.
Oui. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut avoir une idée de l'influence de la guerre d'Ukraine par rapport à cet antisémitisme?
Alors, je ne suis pas sûr. En France, je ne crois pas qu'il y ait eu. Alors, dans le raisonnement de M. Poutine, il accuse les Ukrainiens d'être des nazis. Alors, il est vrai que lorsque l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, et ils ont envahi l'Ukraine, évidemment, qui venait géographiquement en premier lieu, beaucoup d'Ukrainiens, persécutés par les Russes depuis longtemps, ont accueilli les Allemands comme des libérateurs. Un certain nombre d'Ukrainiens se sont engagés dans les troupes allemandes et même dans les camps. Et certains d'entre eux ont participé au massacre de Juifs, qui a été dramatique. Hein. L'Ukraine a été quasiment vidée de ses Juifs. Alors, il y avait beaucoup de Juifs en Ukraine du fait que l'Empire russe les obligeait, leur interdisait, c'est l'interdiction géographique que j'ai évoquée tout à l'heure, leur interdisait de vivre à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, et ils étaient obligés d'être dans la partie occidentale de l'Empire, c'est-à-dire en Pologne, essentiellement en Pologne et en Ukraine ou dans l'actuelle Moldavie. En même temps, si vous voulez, l'histoire est complexe, et l'Ukraine est aussi le pays qui fournit, si vous regardez le site de Yad Vashem, de l'Institut Yad Vashem, c'est l'un des pays qui fournit le plus de justes parmi les nations. Alors, je ne me souviens plus de 2000. Plus de 2000. Hein. Le premier pays en nombre de justes, c'est la Pologne. Et la France, alors j'aurais pu regarder avant de venir, mais je ne me souviens plus, je ne sais plus si la France est juste avant ou juste après l'Ukraine. Donc, voyez que les choses sont un peu complexes et l'utilisation de l'accusation du nazisme par Poutine, évidemment, est une instrumentalisation de l'histoire et une transformation de l'histoire, hein, qui est une histoire terrible entre l'Ukraine et la Russie et qui remonte non pas aux années de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui remonte bien avant. À l'époque du tsar, où les tsars interdisaient l'utilisation de la langue ukrainienne en Ukraine, et puis ensuite, sans oublier la politique de Staline, l'organisation de la grande famine en 1932-33. Bon, voilà, donc, alors, sur le. Je ne suis pas sûr, je ne crois pas avoir vu passer des conséquences ou. De la guerre en Ukraine sur l'antisémitisme dans notre pays. Pas l'impression. À moins que vous n'ayez des informations autres, mais je n'ai pas l'impression, je n'ai pas vu ça. On n'a pas accusé, je n'entends pas dire que c'est un lobby juif qui amène que la France à soutenir l'Ukraine, même si son président est juif, mais ceci dit, je ne suis pas sur les fameux réseaux sociaux et je ne lis pas la presse dissimulée. Donc, voilà, peut-être qu'il me manque des informations, mais là, je n'ai pas vu passer cela.
Excusez-moi, je reprends la parole. Je voudrais signaler la parution d'un livre que. Vous connaissez peut-être une journaliste de France Inter qui s'appelle Sonia de Villers, qui signale que dans les années 50 à 60, la Roumanie a pratiqué le troc de juifs contre du bétail, des porcs, des cochons, des vaches, etc. C'est vraiment impressionnant ce bouquin.
Oui, tout à fait. Elle-même est une descendante.
Sa mère était juive.
de ces juifs roumains qui ont été autorisés à venir en Occident en échange de biens matériels. Il n'y avait pas que des porcs, hein, il y avait aussi toutes sortes de matériaux, y compris des matériaux industriels.
Et dans les années 60, 1960.
Tout à fait, sous Ceausescu. Absolument. C'est une histoire qui sort actuellement et qu'on ne connaissait pas, hein, qui a été complètement...
C'est elle qui a fait. Ouais.
Tout à fait.
Je voudrais apporter aussi un autre aspect. C'est par rapport à l'armée rouge. Quand les troupes soviétiques arrivent, s'approchent de Berlin, Staline donne des ordres pour empêcher aux reporters, aux journalistes et un certain nombre de journalistes juifs russes de parler de ces camps d'extermination. Et très vite, alors que l'armée rouge est victorieuse, c'est l'armée rouge et c'est cette armée soviétique qui va libérer Auschwitz, eh bien, très vite, il y aura une censure et un certain nombre d'intellectuels juifs russes, de journalistes, d'écrivains, ne pourront pas reporter dans la presse à Moscou les exactions, la Shoah, des nazis au peuple russe. Et Staline va continuer jusqu'au bout, parce que tant qu'il sera vivant, il n'y aura pas d'études sérieuses de la part de la Russie, alors qu'ils avaient libéré énormément de camps, et la position officielle à ce moment-là du Parti communiste soviétique, c'était non, les Juifs sont, les Juifs russes sont que russes, et on ne veut pas aborder cette spécificité de cette Shoah, de cette destruction systématique, même en territoire russe, pour les Juifs russes. Voilà, je voudrais savoir votre point de vue à ce sujet.
Oui, alors, les camps d'extermination qui se trouvaient quasiment tous à l'est, en Pologne notamment, ont été libérés par l'armée rouge. Et notamment à Auschwitz le 27 janvier 1945. Et dans un premier temps, l'information a circulé. Dans un tout premier temps, l'information a circulé tout simplement parce que les soldats russes qui sont arrivés là ont été tellement sidérés par ce qu'ils ont découvert. Ils ont causé, ils ont parlé, ça s'est répandu. Mais très vite, effectivement, Staline, enfin le KGB a repris la main là-dessus, et on a fait très peu d'informations sur le fait que ces gens étaient, ces personnes, les quelques survivants qu'il y avait, étaient juifs. Hein. D'autant plus que Staline met en place très vite une politique officiellement antisémite. Très très vite, et une politique antisémite qui dure même au-delà de Staline, au moins jusqu'à Khrouchtchev, jusqu'au... Et qui se déguise ensuite en politique pro-arabe par rapport à Israël, etc. Oui, tout à fait, il y a eu une occultation en Union soviétique de la Shoah, absolument, et le fait que, effectivement, on n'a pas voulu, j'allais dire, montrer que les Juifs étaient des victimes. Hein. D'autant plus qu'en matière de camps de concentration, le régime était un expert aussi. Donc, c'était pas des camps de la mort, hein, le Goulag, c'est différent. Mais voilà, donc ils ont voulu occulter cela, et on retrouve quand même l'antisémitisme latent. Trotsky, par exemple, a été combattu par Staline, certainement parce que Trotsky avait une vision différente de la révolution bolchevique, mais aussi le fait que Trotsky ait été juif a pesé aussi sur son sort.
si personne ne reprend tout de suite la parole, je voulais vous remercier infiniment. D'une part parce que vous êtes un président qui n'est pas juif et qui peut parler encore plus librement de cet antisémitisme, tout ce que vous avez pu en dire. Merci. J'avais beaucoup de mal à parler de tout cela, mais je voulais vraiment témoigner, de dire que c'est par une injonction très désagréable que j'ai eue il y a une petite quarantaine d'années avec une amie qui me parlait de toute la juiverie. Puis j'avoue que, commençant par dire « Mais tu sais bien, mais tu comprends pas, mais tu sais bien, cela, cela, cela. » Non, je comprenais pas. Et puis j'ai fini par accepter de dire qui j'étais et de lui dire que, oui, elle ne savait pas à qui elle parlait. Bien sûr, sa réaction a été « Mais toi, t'es pas comme les autres. » Et 2 heures, j'ai parlé avec elle. Seulement, c'était un antisémitisme religieux. Et là, j'étais en difficulté parce que je ne connaissais pas bien l'histoire de Jésus. Je ne la connaissais même pas du tout il y a 40 ans. Donc, j'ai compris qu'il fallait, pour se connaître et pouvoir vraiment se parler, s'écouter, que quelque chose se fasse. Et puis, c'est le miracle de la vie. J'ai rencontré Témoignages Chrétiens, j'ai rencontré des amis ici, à Annecy, à Verrières, qui, une année ou deux auparavant, avaient créé un groupe de recherche, justement. Nous étions qu'une dizaine, une douzaine. Et là, oui, connaître qui est l'autre. Ça s'est transformé en amitié judéo-chrétienne. Je ne les ai jamais quittés. Et je pense que c'est tellement important, pour moi en tout cas dans ma vie, c'est quelque chose qui a éclairé complètement et qui a libéré une grande partie de, je ne vais pas parler d'identité, mais d'avoir le droit de dire qui j'étais, sans risquer d'être fustigée comme je l'ai été même dans mon enfance. Et vu ce qu'ont vécu mes parents, ukrainiens, et moldave. Mon père était de Bessarabie, il est né en 1903, à 2 mois du pogrom le plus terrible.
De Kishinev.
Kishinev, il est né là-bas. Et ma mère est d'Ukraine, née à Paris. Alors c'est dire que nous portons des choses très lourdes et que pour pouvoir au moins nous soigner, nous avons besoin des autres et nous avons besoin de vous tous ici, amis, chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes et bien sûr nos amis juifs, tous ensemble. Voilà ce que je voulais juste témoigner. Nous avons à transmettre tous ce qui se passe dans nos soirées, lors de nos repas avec nos amis. C'est délicat de parler de tout ça. Mais nous avons malgré tout à le transmettre, tous, autant que nous sommes, avec nos mots à nous et ce que nous ressentons dans nos cœurs. Puisque je voulais dire, comme c'est un problème religieux, à ce moment-là, en disant que je ne connaissais pas qui était Jésus, elle ne connaissait pas non plus qui était mon juif, cette personne. Mais il est sûr que l'idée du monothéisme, vous n'en avez pas parler, mais il y a quand même cet anti-judaïsme qui vient de là, c'est-à-dire l'idée que nous sommes soi-disant le peuple élu. Alors comme disait, je crois, Delphine Orvilleur, ça se saurait hein, si on était vraiment élu. Alors l'élection qu'on nous offre, non merci, non merci. Donc c'est plutôt la responsabilité que l'on a de quelque chose que Dieu nous a demandé, d'être à travers la Torah, à travers sa loi, et une loi qui a été transmise à Jésus, et Jésus, normalement, l'a transmise aussi aux autres. Donc, c'est là aussi qu'il y a eu déjà des choses si graves à ce moment-là, bien avant, concernant l'idée que les Juifs, les Hébreux même, hein, on peut remonter jusque-là. Et Pascal Horry en parle dans son livre. Bien sûr, Delphine Orvilleur aussi. et d'autres. Voilà, merci. J'étais peut-être un peu longue, mais je vous remercie.
Merci pour votre intervention très forte. Et oui, vous avez tout à fait raison. Ce choc, ce vécu qu'ont la plupart des Juifs, hein, cette rencontre contre les préjugés. Je me souviens, à Nantes, j'avais croisé une personne qui me disait que dans son enfance, ses parents lui disaient, mais c'était une personne âgée, hein, mais quand même, ses parents lui disaient, mais ne passe pas devant l'église, change de trottoir. Enfant, on lui a dit cela, change de trottoir. C'est dire combien, quand même, le poids est lourd à porter. Le poids est lourd à porter. J'étais très frappé par ce témoignage que ce monsieur m'avait donné. C'était à Angers, c'était pas en Nantes, c'était à Angers. C'était en fait le président de la communauté juive d'Angers. Et donc, voilà, oui, tout à fait. Il y a vraiment un poids de l'histoire, un poids très lourd à porter. Mais Jules Isaac, je reviens à Jules Isaac qui nous a, et à quelques autres, pas seulement lui, parce que ça a été préparé par des maritains, par d'autres aussi, qui ont lutté contre l'antisémitisme. Je pense à Anatole Leroy-Beaulieu, en la fin du 19e siècle aussi. Bon. Mais Léon Blois et quelques autres. Mais c'est surtout Jules Isaac qui a fait prendre conscience en s'appuyant malheureusement sur la Shoah. Il a fallu la Shoah. Il a fallu passer par là pour prendre conscience de ce que des conséquences de cet anti-judaïsme, antisémitisme. Difficile de faire vraiment la différence entre les deux. Je crois qu'il a fallu beaucoup de temps. Et comme je le disais tout à l'heure, le pape a mis 2000 ans pour entrer dans une synagogue. Voilà. Mais il y est entré.
Bien, est-ce qu'il reste ? Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ? Alors, je crois que quelqu'un m'avait présenté un livre. Si vous voulez venir, madame, et on pourra même vous accorder un peu plus de temps. Vous avez votre livre ? Non, non,
ça, non, mais ce n'était pas le livre que je voulais présenter. Pas. Enfin, alors, le livre fait partie de l'histoire, mais...
Voilà, alors vous allez expliquer.
Bonjour, alors, je suis, comme vous diriez, de culture juive et chrétienne. Et je m'occupe... en tant que présidente d'un établissement où nous avons eu la chance d'avoir le père Pfaff, qui était un prêtre catholique et qui, pendant la guerre, a aidé beaucoup d'enfants à passer, étant donné que cet établissement est sur la frontière suisse, faire passer des juifs et en particulier beaucoup d'enfants en Suisse. Donc cette année, nous avons entrepris de créer une petite association pour restaurer ce mur et la cabane du frère Raymond qui aidait à faire passer les enfants. Et nous avons l'intention de faire une inauguration au mois de mai. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse, ce serait avec grand plaisir, avec un parcours historique, avec des plaques, avec de nombreuses références, QR codes qui renverront à des parcours pour tout le type de public, des petits enfants aux grands, et que nous pourrons faire visiter. Donc je vous tiendrai au courant, je pense pas.
Alors, oui. Alors avant de partir, vous donnerez vos coordonnées à la secrétaire de l'amitié.
Alors je vous mets aussi peut-être.
Et comme ça, on toute une délégation,
on sera peut-être plusieurs.
Ah mais j'espère.
De l'amitié judéo-chrétienne à venir à cette date que vous avez mentionnée. Vite prendre vos coordonnées. Et comme ça,
et
au printemps,
on est. Et celle de l'association.
Et il est où? Voilà, on pose des questions. Où est-ce qu'il est ce mur exactement?
Alors, il est. C'est un mur qui est à la frontière entre la Suisse et la France, mais... à Ville-la-Grand, à Annemasse. Et c'est là que plusieurs prêtres du département, aidés par des pasteurs de l'autre côté du mur, ont pu faire, pendant la guerre, passer. Des familles et des enfants.
Vous avez quel âge à peu près? Tous petits?
En général, c'était un juvénat, donc pour jeunes garçons. Donc, pour les cacher, il fallait qu'ils soient à peu près correspondants. Donc, c'était autour de 12 ans. Mais ils aidaient aussi les familles à se rassembler pour pouvoir passer en même temps des familles entières.
Voilà, merci.
Et donc, il y a le livre que j'avais était justement sur la vie du père Favre pendant ces années de résistance et période-là.
Voilà, elle va nous donner les coordonnées et on transmettra tout le monde.
Donc,
quand ils vont faire cette date, cette commémoration.
Voilà, ben, je vous enverrai de toute façon.
La date et tout.
C'est le 5 mai. Et ce sera une célébration interreligieuse.
Ah, en plus, super.
Voilà.
Ça tombe un dimanche, le 5 mai?
Non, ça tombe un vendredi, si je ne m'abuse.
Mais bon, c'est pas grave, on se débrouillera. Le vendredi 5 mai.
Que Jean, je vous mets mon mail à moi.
Voilà, c'est bien. Oui, alors, il faut annoncer maintenant. Le temps passe, les mois tournent. Et donc,
je vais vous chercher
pour
sur
décembre,
mon téléphone.
Le 7 décembre, et je crois qu'il est là, notre talmudiste, Gérard Amanant. On va t'écouter avec plaisir, parce que tu es un puits de connaissances et de sagesse.